Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, quel sera notre premier sujet du jour?
Eh bien Julia, on va commencer comme tous les jours par poser là une question à la fois pratique et intime ce matin. Comment réussir sa vie de couple? Et oui, améliorer vos relations avec votre moitié ou tout simplement la communication entre vous, cela fait même peut-être partie de vos bonnes résolutions. Eh bien, on va vous guider ce matin, vous donner les bonnes clés pour se diriger dans cette voie. Nous verrons donc tout ça en détail et on le fera avec Jacob Azeroual, il est médecin psychanalyste psychothérapeute spécialisé dans le couple.
Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour consacré ce matin au périnée des femmes enceintes et des jeunes mamans. Comment préparer le périnée à l'accouchement, comment le soulager après cette épreuve et même le réparer? Nous ferons le point avec une sage-femme, Soya Mohamed, qui sera avec nous tout à l'heure.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera portée par le chef pâtissier Jeffrey Cagne. Ce midi, il nous propose de nous livrer tous ses secrets pour faire une bonne galette des rois. Que vous soyez team frangipane ou brioche, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. Ensuite, ce sera au tour de Séverine Pierron. Elle va éclairer nos lanternes aujourd'hui sur cette mode des vidéos presque hypnotisantes, un peu dégoûtantes parfois, mais qui scotchent littéralement certains jeunes à leurs écrans. En fait, c'est une forme d'ASMR, d'hypnose pour les yeux. Elle nous dira tout.
Et enfin, nous terminerons ce tour de table avec la chronique d'Elsa Lévy. Elle a déniché pour nous une tendance qui ne va pas trop m'emballer, hein, je pense Mélanie. Elle nous incite à tester le cluttercore ou l'art de mettre du désordre dans sa vie, dans son appartement.
Ça va pas vous plaire ça.
Non, c'est pas mon truc, mais bon, qui sait, on peut changer d'avis. Si on peut avoir un peu de fouillis, mais quand même bien rangé, je vais peut-être me laisser tenter, on verra ça en fin d'émission.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser cette question, comment réussir sa vie de couple?
Eh oui Mélanie, c'est pas un sujet évident, hein, surtout sur la longueur. Une vie amoureuse, il peut y avoir évidemment des hauts et des bas, on le sait. Mais en 2022, on va tenter ensemble d'y mettre surtout des hauts. Alors on va vous donner des tas de conseils dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant de détailler tout cela, on va demander à notre amoureux de la vie ce qu'il a glané comme info sur ce thème assez intime. A-t-il trouvé de bonnes astuces auprès des Français pour être heureux en amour? Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, effectivement, le couple c'est ma spécialité, j'ai trouvé comment être heureux, je me suis mis en couple avec une psychanalyste,
franchement,
fonctionne, ça c'est pour ma vie privée. Pour le reste, je me suis déjà demandé, pour que le couple dure longtemps, combien de temps ça peut durer un couple, c'est la question que j'ai posée autour de moi.
100 ans. 50 ans à peu près.
50, 60 ans.
Bah 99 ans.
Bah moi ça y en a, ça a duré 6 ans.
6 ans, mais t'as quel âge?
Bah 10 ans.
En 6 ans t'as eu le même amoureux?
Oui.
Ça s'est terminé pourquoi?
Bah parce que on s'est fâché.
Oh,
c'est ballot ça. Six ans d'amour.
La moitié de sa vie avec le même homme.
Hein, oui, bah, c'est pour ça souvent qu'on se fâche quand on est enfant. Après, il y a des enfants plus terre à terre où c'est forcément moins beau. Même question, combien de temps ça dure l'amour?
15 jours, parce que des fois on se fait quitter 15 jours. Souvent même.
Et du réalité, se faire larguer au bout de 15 jours, même avant d'avoir 10 ans, ça fait mal. En tout cas, je retourne à la réalité avec des adultes. J'ai croisé une femme qui avait plus de 40 ans de mariage et je lui ai dit alors bravo déjà, mais surtout quel est le secret?
Bon, ça fait 40 ans que je suis mariée. Il y a eu des bons moments, des mauvais moments, les engueulades à cause des enfants. Et en fait, on oublie qu'on s'était engueulé, qu'on n'était pas d'accord sur tout, même si on continue à ne pas être d'accord sur tout.
Alors le conseil, c'est oublier, apparemment selon cette dame, oublier le quotidien. Il y a évidemment d'autres très bons conseils.
Prendre du temps à se voir à deux, souvent, et se parler beaucoup.
Échanger, partager.
Oui. Des belles choses. Et puis bah, les conseils, ils viennent des enfants, les meilleurs conseils. Alors quels sont les conseils pour une vie qui dure?
Pour l'inviter au restaurant,
lui offrir des vêtements.
Il faut préparer son plat préféré et l'inviter à dîner.
Alors, il faut l'emmener en voyage en Italie parce qu'il y a des bonnes pizzas.
Voilà, ah,
j'aime la bien
bouffe,
celui-là.
La bouffe, la bouffe, on en revient toujours au même. Hein. Et puis même chez les enfants, je suis tombé sur quelqu'un. Je me suis fait bâcher par un enfant directement. Ah. J'ai posé la question aux mauvais enfants, en fait, sur la vie de couple.
Moi, j'en sais rien. Je suis une éternelle célibataire.
À quel âge?
7 ans et demi.
J'ai 7 ans et demi et je suis une éternelle célibataire. Elle s'appelle Rose et on l'embrasse.
Oh, mais Rose, on va aller trouver votre chaussure à votre pied.
Rien n'est définitif à 7 ans et demi. Même à 77 ans, on l'espère en tout cas.
Merci beaucoup Clément pour cette entrée en matière de qualité comme toujours. Et notre invité a beaucoup rigolé également. Bonjour Jacob Azeroual.
Je ris parce que je trouve ça extrêmement frais.
Mais en plus de la fraîcheur, il y a tellement de vérité là-dedans, comme l'histoire effectivement de l'inviter au resto, d'y prendre du temps.
En Italie, pour manger des pizzas.
Mais c'est vrai, parce qu'effectivement, il faut prendre le temps pour se retrouver, et ça peut être un restaurant ou un week-end à Rome, pourquoi
alors,
pas.
Je vous présente quand même, hein, vous êtes médecin, psychanalyste, psychothérapeute spécialisé dans le couple et l'auteur du livre « Couple, les clés pour le réussir » aux éditions Guy Trédaniel, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça. Vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir une vie de couple épanouie en 2022 ? On se dit qu'aujourd'hui, environ un mariage sur trois finit par un divorce. Est-ce que ces chiffres-là reflètent bien la réalité ? Est-ce que vous voyez, vous, dans vos consultations ?
Absolument, mais Julia, juste avant de commencer...
Moi, c'est Mélanie. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'allez pas pécho aujourd'hui.
Mais non, on est un vrai couple avec Mélanie. Elle, c'est moi. Moi, c'est elle. On est fusionnels.
Ne pas se tromper de prénom, déjà, c'est le premier conseil.
Non,
premier
mais c'est justement... Mais absolument. Mais le problème, il est déjà avec l'histoire du masque. On voit un demi-visage. Donc,
oui. Il aurait pu vous appeler Clément. Ça aurait été plus vexant. Mais...
En tout cas, Mélanie et Julia... Et je voulais déjà vous dire deux mots qui sont merci et bravo. Merci d'abord de m'inviter ou d'inviter des gens comme moi pour parler d'amour, parce qu'on a besoin actuellement de bienveillance. Et bravo parce que d'avoir choisi ce titre, je ne vous cache pas que lorsque j'ai entendu parler d'une émission qui s'appelle « Bien fait pour vous », ma réflexion a été, je me suis dit « waouh, c'est génial ». Dans un de mes bouquins, j'ai dit « Le monde est comme le feu, il peut vous éclairer ou vous brûler ». C'est-à-dire les choses, elles sont ce qu'on en fait. Or, « Bien fait pour vous », habituellement, est une expression méchante. Bien fait pour toi, bien fait pour vous. Et vous, vous avez pris quelque chose de négatif a priori et vous l'avez transformé en positif. Mais sachez que tout est ainsi. Même la notion, le concept du couple, c'est une prison, c'est une liberté. C'est la sérénité ou bien non, c'est la castration. C'est une série d'obligations et d'astreintes. En fait, les choses, elles sont comme on veut les décliner. Alors, idem, est-ce que ça va plus mal actuellement? Vous savez, quand on était à l'école, petit, quand on nous avait parlé de la révolution industrielle, il y avait un travail qui consistait à dire avantages et inconvénients de la révolution industrielle. Moi, je me suis dit, je ne comprends pas, au lieu de labourer avec une charrue et des bœufs, prendre une moissonneuse batteuse, il n'y a que des avantages. Et après, non, j'ai réfléchi, je me dis, mais pas du tout. Il y a toujours des avantages et très souvent, c'est accompagné d'inconvénients. Mais
vous êtes un grand romantique, hein, en tout cas. Oui. Le couple avec la révolution industrielle, j'adore.
Bah, bien.
J'adore. Et la moissonneuse batteuse.
C'est pour dire... Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour dire que la modernité a son lot d'avantages, mais
bien
aussi
sûr.
D'inconvénients.
Alors,
c'est vrai qu'il y a plus de respect, plus de soucis d'égalité, mais en même temps, une absence de compassion et une absence aussi de galanterie, de voilà, cette volonté de faire du bien à l'autre. Je voudrais vous raconter une anecdote. L'anecdote suivante, c'est que j'étais en train de faire mon footing et je dépasse un couple... Très âgé.
Bravo déjà.
Oui, pour le footing. Attendez, ils avaient quel âge? Très âgé, c'est-à-dire?
Non, eux, ils ne faisaient pas le footing. Eux, ils marchaient.
Ah, d'accord.
Eux, ils marchaient la main dans la main. Et je les ai dépassés parce que j'ai trouvé ça tellement beau et justement très romantique. Et j'ai commencé à leur chanter « Quand il me prend dans ses bras ». Alors le monsieur me regarde, il me dit « Oh, merci monsieur, vous êtes gentil ». Puis il me regarde, il me dit « Vous n'êtes pas le monsieur qui écrit des livres ?» Je lui dis « Oui, absolument, comme vous savez ». Il me dit « Mais vous savez, il y a déjà quelques temps, déjà, on s'est déjà croisés sur le Champ de Mars, assis sur un banc. Et vous m'avez posé une question, est-ce qu'on doit tout dire dans le couple ? Je lui ai dit, ah, vous êtes celui qui mange le poulet cru ? Il m'a dit, oui, absolument. Je voudrais vous raconter cette anecdote, elle est vraiment extrêmement symbolique. Ce monsieur, donc, avec cette femme, était assis sur un banc. Je me suis permis de leur demander est-ce que je pouvais m'asseoir à côté d'eux pour travailler, justement. Et puis, à un moment, je me suis aventuré à leur poser la question, est-ce qu'on doit tout dire dans le couple ? Et le monsieur me dit, ah, alors là, vous tombez bien. Je lui ai dit, oh là là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et il me dit... que la première fois qu'ils se sont vus, le premier repas qu'elle lui a préparé, c'était du poulet. Le poulet était cru. Et lui, comme ben, il était à l'ancienne, quelqu'un de poli, il a fini son assiette. Elle, comme elle a vu qu'il a fini son assiette, elle s'est dit, il adore le poulet cru. Donc dorénavant, elle a fait le poulet cru. Et toute sa vie, il a mangé du poulet cru.
C'est ça, l'amour.
Mais je veux vous dire, c'est quoi l'amour? En fait, c'est cette idée d'être capable de... d'avoir ce souci de ne pas faire de la peine à l'autre. Pour ne pas lui faire de la peine, il ne s'est pas aventuré. Je lui dis, mais maintenant, vous lui avez dit ? Il me dit, oui, maintenant, malheureusement, elle a des problèmes de vue, donc elle ne cuisine plus.
C'est donc, trop mignon.
Mais c'est absolument cette compassion. Vous voyez, c'est ce désir de rester ensemble, ce désir de construire, ce désir de réparer. Eh ben justement, nous, on a perdu notamment cette... capacité d'abnégation de soi et ce don de soi, ce sacrifice.
On peut rester ensemble avec du poulet cuit, rassurez-nous.
Ouais.
Mais évidemment, évidemment.
11h30 sur Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Et oui, vous êtes bien de retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être ici. On ne cherche qu'à rendre notre vie quotidienne plus belle, plus douce et surtout emplie d'amour ce matin, particulièrement sur Europe 1. Et pour cela, on réfléchit ce matin à cette question, comment réussir sa vie de couple ? On vous dit tout sur le sujet avec notre chanteur Jacob Azerwal, qui ne fait pas que ça, il est également médecin, psychanalyste, psychothérapeute.
Mais pourquoi pas ? Aimer, c'est aussi chanter.
Exactement, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Couple, les clés pour le réussir, aux éditions Guy Trédaniel, et aux mêmes éditions, un autre livre qui s'appelle « Savoir aimer, l'amour de soi commence par l'amour des autres ».
Alors, vous voyez déjà, Julia, oui, comment est-ce que vous avez décliné le titre en dit long sur votre personnalité.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Parce que justement, il y a ceux qui disent « savoir s'aimer », parce qu'il y a S apostrophe entre parenthèses.
Je ne l'ai pas vu.
Justement, vous savez, mais ça ne fait que traduire votre souci d'altérité. Ceux qui voient savoir s'aimer, c'est des gens qui sont plutôt dans l'égocentrisme. Ceux qui voient savoir aimer, c'est ceux qui sont dans l'altruisme et l'altérité.
Ou des fans de Florent Pagny.
Dites-moi, Mélanie, vous aviez vu quoi, vous ? Savoir aimer ou savoir s'aimer ?
Savoir s'aimer, moi, je voyais.
Ah là là là, c'est pour ça qu'on fait un duo d'enfer.
Mais en fait, les deux sont importantes parce que pour savoir aimer, justement, il faut savoir s'aimer.
Également savoir s'aimer. Alors, bon, il faut savoir également choisir le bon partenaire. Ça commence par ça. La première clé de la réussite d'un couple, selon vous, c'est le partenaire ? C'est le choix ou on s'en fiche en fait ?
C'est très simple. Mélanie, Julia, si on vous avait mise dans une émission politique, il est fort probable, vu votre personnalité, que vous aurez été à peine compétente et vous serez venue avec des crampes d'estomac à l'estomac. Tandis que là, vous arrivez avec des papillons dans le ventre parce que ça vous ressemble beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire que le choix du lieu où nous sommes va déjà conditionner une alchimie positif ou une alchimie négative. Le choix du travail, comme le choix du partenaire, va conditionner beaucoup de choses. C'est ce qui va faire qu'effectivement, ça va matcher ou ça ne va pas matcher.
Mais alors, comment on l'a choisi ? Est-ce que l'âme sœur, ça existe, par exemple ?
Alors, l'âme sœur, évidemment que ça existe.
Ah bon ?
Pour un roman, évidemment.
Je croyais que c'était que dans les films et dans les contes de fées.
Ah non, ça existe. C'est peut-être parfois une rencontre qui est assez rare. Mais justement, quand ça arrive, quel gâchis de se séparer quand nous sommes des âmes sœurs. Parce que vous les voyez, on dirait, c'est un casting, vous vous demandez, ils vont trop trop bien ensemble.
C'est qui comment on sait qu'on est avec l'âme sœur ? Moi, je ne sais pas. Enfin, j'aime beaucoup mon mari, mais je ne sais pas si c'est mon âme sœur, j'en sais rien.
Ben, prenez un selfie tous les deux, et vous allez voir que sur le selfie...
C'est une question de physique, alors.
Ah non, pas du tout. Non, pas du
on est très beaux tous les deux.
Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de physique, en fait. L'important, ce n'est pas le physique, c'est ce qui émane du physique. Il y a une complicité entre les deux qui fait que dans le casting, on ne peut pas les imaginer autrement.
Mais ça ne veut pas dire que si c'est son âme sœur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser le couple. Ce n'est pas pour ça que c'est gagné.
Est-ce que si je prends une terre fertile, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être cultivée ?
Si.
Est-ce qu'une histoire d'amour, ça se joue dès le début ou est-ce que c'est plutôt un travail, donc une terre qu'on entretient sur la durée, ou est-ce que tout de suite, il y a des bonnes bases qu'il faut poser ?
Alors, je dirais le deux. Je suis chanteur amateur et je sais une chose, c'est qu'une chanson, ça se joue au début. Si vous avez bien placé votre voix, ni trop bas, ni trop haut, si vous avez commencé avec une note qui est juste, il y a de fortes probabilités que la suite soit juste aussi. Maintenant, ceci étant, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jardin, ça s'entretient. Il faut se renouveler. Et pour se renouveler, il faut faire des resets. Des resets, c'est-à-dire se réapproprier la vie, se réapproprier l'autre. Et bien sûr, il y a des secrets comme « Alors on vit chaque jour comme le dernier. » C'est-à-dire déguster notre partenaire. Et tout à l'heure, par rapport à ce qu'a dit Clément, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ses interviews, hier, en faisant le footing, vous demandé est-ce que je passe ma vie à faire du footing ?
C'est bien, bravo.
Vous faites du footing et vous chantez beaucoup. Ouais.
Je me suis fait cette réflexion-là. Je me suis fait peut-être que, en fait, pour se retrouver et pour apprendre à s'apprécier, peut-être devrions-nous faire un exercice, peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas de temps en temps, de rester l'un en face de l'autre 15 minutes sans se parler, juste en se regardant pour voir comment elle est belle. Et elle, de voir comment il est beau. Un peu comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, « Famille recomposée », où ils sont accroupis l'un en face de l'autre, ils sont en train juste de se caresser les oreilles. Et en fait, il y a une sorte de méditation à deux, une sorte de mise en vibration.
De contemplation un peu aussi.
Absolument. Mmh. Ben justement, c'est le mot qui manque le plus actuellement, c'est la contemplation. De prendre ce temps, de débrancher, se déconnecter pour se connecter, justement.
Ça me fait rire parce que je m'imagine en train de caresser les oreilles pendant 15 minutes de mon mari, mais ça doit être une expérience hors norme, sans se parler en plus.
Ça,
si ça se trouve, c'est hyper érotique.
Sans
il faut qu'on essaie.
Mais regardez le film, vraiment, ouais. Famille recomposée, absolument magnifique.
Alors, est-ce que l'âge auquel on se met en couple a un impact sur la suite de l'histoire? Le dicton, c'est mariage plus vieux, mariage heureux. Alors, j'ai toujours cru que plus vieux, c'était en un mot, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la météo. Mariage plus vieux, mariage heureux. Est-ce que ça se vérifie ou pas?
Alors, pour être honnête avec vous, moi je suis fan de Chaplin, d'ailleurs mon livre Savoir s'aimer est dédié notamment à sa mémoire. Et Chaplin s'est marié plusieurs fois, mais son véritable mariage, son grand amour, c'est avec Una Chaplin. Et donc à un âge vraiment très avancé. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge maximal pour se marier. Par contre, est-ce qu'il y a un âge minimal? Je pense que oui, parce qu'il faut d'abord une indépendance financière, parce que vivre chez les parents ou chez les beaux-parents, c'est pas une bonne idée. Et puis ensuite, parce qu'il faut un minimum de maturité et d'acquisition de savoir aimer. Et mon livre ne suffira pas. Il faut un minimum d'expérience pour apprendre à aimer l'autre, c'est-à-dire apprendre à s'intéresser à quelqu'un d'autre que soi-même.
Parlons un petit peu des disputes. Hein. En 2022, les couples qui se disputaient déjà en 2021, les probabilités sont importantes que ça continue. Est-ce que c'est grave de se disputer souvent? Il y a même des couples, on dit, c'est une façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, se disputer trop et trop souvent est probablement symptôme d'un hors-sujet, c'est-à-dire qu'on s'est trompé d'endroit. D'ailleurs, une double question qu'on doit se poser quand on est devant un problème de couple, c'est un, réparable, pas réparable, et l'autre question, c'est est-ce qu'on ne s'est pas trompé de casting?
Que c'est pas réparable, justement?
Malheureusement, moi j'ai une méthode très très simple, qui est celle, en tant que thérapeute, je dis toujours, je ne suis pas un mystique kabbaliste, je n'ai pas de machine pour savoir si vous allez bien ensemble ou pas, je leur dis, je vous propose 3 mois de thérapie où on s'investit réellement, où réellement l'un et l'autre s'investit dans la tentative de réparer. Si c'est pas si au bout de 3 mois c'est pas réparé,
c'est que c'est pas réparable.
C'est que c'est pas réparable a priori, tout simplement. Maintenant, c'est par simple. Rapport à la dispute, il faut savoir que trop se disputer est probablement symptôme d'un hors-sujet, mais la dispute, au contraire, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? C'est dire ce qui ne va pas. Je vais raconter une blague que j'avais adorée sur, je suis désolé, une radio concurrente, mais complémentaire, Rire et Chanson. Et il y a une fille qui demande à sa copine, elle lui dit, alors ton date hier, ça a marché? Elle lui dit, une chose est certaine, c'est pas l'amour de ma vie. Elle lui dit, oui, pourquoi? Elle lui dit, parce que je portais des nouvelles chaussures et j'avais mal toute la soirée et j'ai pas osé dire que j'ai mal. Un mec à qui j'ose pas dire que j'ai mal toute une soirée, je pourrais pas vivre avec lui toute une vie.
Bah, on va
donc,
pas le porter.
Dire, de dire ce qui ne va pas, mais bien sûr, à condition que ce ne soit pas avec agressivité, pas avec mépris et pas avec mauvaise foi.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les efforts et les concessions? Et quel est le mieux?
Alors, je dirais que effort, c'est quand on agit, c'est-à-dire c'est de faire. Concession, c'est plutôt quand on se retient, quand on se retire. Mais en fait, pour être honnête avec vous, je dirais ni l'un ni l'autre. Je dirais plutôt entre les deux, compromis, c'est-à-dire où on est gagnant-gagnant. Quand chacun cherche le bonheur de l'autre. Mais la plus belle histoire que j'ai à vous raconter, elle est dans un reportage sur un vétérinaire très spécial. Ce vétérinaire adorait les lions. Il vit avec eux. Et on le voit jouer, manger avec eux, etc. Et à un moment, on voit donc le vétérinaire, il y a une rivière à côté, on le voit dans le reportage, et il plonge dans la rivière. Arrivé au milieu de la rivière, il fait signe à la lionne de venir. Donc on est déjà dans du surréalisme là. Vous ne voyez pas que la lionne, elle vient, hop, elle plonge, elle nage jusqu'à lui, elle arrive à lui, elle l'enlace, il patauge, il joue ensemble, etc. Et le reporter, très intelligent, il dit « Mais pourtant, les lions ont horreur de l'eau. » Moi, personnellement, je ne savais pas. Mais elle avait tellement envie de lui faire plaisir qu'elle en a oublié qu'elle avait horreur de l'eau. Et je trouve ça, c'est extraordinaire. Cette notion d'effort et de concession, de compromis, de sacrifice, ce que vous voulez. Mais en fait, on a tellement envie de faire plaisir à l'autre que son plaisir, c'est mon plaisir. Comme son plaisir. Justement, ce n'est pas de s'oublier. Je dis que réellement, je ressens du plaisir. C'est un réel plaisir, c'est un réel bonheur. Même sur le plan intime, donner du plaisir, c'est mon propre plaisir.
Épouser un lion, voilà, c'est tout ce qu'il nous reste à faire.
Venez, on va dans la rivière patauger.
Mais non, en fait, je suis sûr, Clément, que vous êtes partisan du PSG. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit « supporter » et supporter. Ouais. Supporter, c'est « Ah, c'est parce que je te supporte ». Alors que supporter, au contraire, c'est être dans l'encouragement.
Alors, vous écrivez que de nos jours, on cherche à se réaliser individuellement. Alors ça, c'est une bonne chose, mais ça se fait parfois au détriment du couple. Donc, ce n'est pas une bonne chose d'avoir chacun sa vie de son côté et d'essayer de s'épanouir individuellement. Il faut vraiment tout faire à deux et pour avoir vraiment une réussite sentimentale.
Alors, si j'enchaîne avec l'histoire du foot, je ne suis pas un méga passionné du foot, mais je regarde en général la fin, en général le mondial, etc. parce que j'ai toujours des leçons. Et... Clément, rappelez-moi, la grande victoire française, c'était avec
la Coupe du Monde 98 ou
oui,
celle de la dernière
comment s'appelait l'entraîneur
Aimé Jacquet.
Aimé Jacquet, bravo, j'adore.
Bravo.
En 98.
Alors, exactement, donc c'est 98. Alors, Aimé Jacquet, il avait expliqué, alors qu'il était d'ailleurs dénoncé, il disait tout le monde le critique, etc., jusqu'à la victoire. Mais il a expliqué qu'en fait, le secret de la réussite, c'est que c'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas l'individu qui gagne. Or, quand on dit se réaliser, et individuellement, se réaliser, évidemment, je suis pour. La preuve, j'ai écrit un bouquin entier sur savoir s'aimer pour savoir aimer. Mmh. Mais le problème, il est dans individuellement. Individuellement, ça veut dire quand ma réussite est écrasante et qu'elle écrase l'autre. Quand elle est au détriment de l'autre. Quand on réussisse ensemble, main dans la main, quand on est un binôme qui match,
faut être
avec
une
plaisir,
équipe,
bien sûr. Exactement.
Comme des lions qui patauchent dans la
rivière.
Comme,
faire équipe. Comme Mélanie et Julia.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes en studio avec Jacob Azeroual, médecin, psychanalyste, psychothérapeute. Et vous êtes également l'auteur du livre « Couple, les clés pour le réussir » aux éditions Guy Trédaniel. Deuxième ouvrage, Julia, c'est vous qui l'avez.
Eh bien,
savoir s'aimer.
Savoir s'aimer ou savoir aimer, selon que l'on est pro soi-même ou pro l'autre. L'amour de soi commence par l'amour des autres, Mélanie. Je crois, qu'est-ce que vous êtes en train de lire le livre?
Oui, parce qu'il y a des conseils évidemment fabuleux dans ce bouquin, des cas
Mélanie.
Très concrets. Là, je suis tombée sur ne claquez pas les portes. Parce
J'adore.
Que chez moi, ça claque pas mal quand même. Alors pourtant, j'ai l'impression d'avoir réussi mon couple.
Est-ce que
c'est
que
grave,
je peux
docteur
rebondir sur ça?
Oui, oui, je vous en prie.
C'est une histoire vraie. Quand j'étais étudiant, j'avais des voisins absolument extraordinaires qui ne se plaignaient. On jouait beaucoup, beaucoup de musique avec les copains, guitare, piano, etc. Les voisins ne se plaignaient jamais. Juste ma voisine de palier, une vieille, pardonnez-moi, une dame âgée, elle m'a dit, s'il vous plaît, votre musique, elle ne me dérange pas. Par contre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas claquer la porte? Je me suis dit, je ne comprends pas, je fais un bruit énorme. La seule chose qui la dérange, c'est claquer la porte. Et je trouvais cette image extraordinaire. Pourquoi? Claquer la porte, il y a une sorte de violence. C'est raccrocher au nez. Mmh. C'est dire, va-t'en. C'est être dans l'agressivité. Alors qu'en fait, fermer la porte, l'autre peut vous rappeler. Si vous la claquez, l'autre, même s'il reconnaît avoir eu tort, il ne vous rappellera pas. Je veux bien, Julia, que vous aussi fassiez le test.
Ah bah. Moi, je suis tombée sur une page là, de votre livre « Savoir s'aimer ou savoir aimer ». Et nous avons une obligation de moyens et non de résultats. Est-ce qu'on peut appliquer ça au couple?
Magnifique. Alors, moi, mes deux messages fondamentaux, les deux, si je dois, on doit retenir deux messages, c'est un, ne jamais désespérer. Jamais, jamais. James Bond, il ne meurt jamais.
Oui.
Il y a toujours une alternative. Et deuxièmement, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de faire ce que vous ne pouvez pas. Faites ce que vous pouvez. Juste... faites quelque chose. Mmh. D'où l'histoire, par exemple, les petits gestes. Vous ne pouvez pas lui offrir une Rolex, elle ne vous a pas demandé une Rolex. Offrez-lui un bouquet de fleurs. Vous ne pouvez pas un bouquet de fleurs, offrez-lui une rose. Offrez-lui du temps, un petit gâteau, un petit geste.
Mmh. Alors justement, ça nous amène au sujet de la sexualité, parce qu'il faut du temps aussi pour vivre une belle sexualité. Est-ce qu'un couple doit forcément avoir une sexualité épanouie?
Alors, on ne va pas se mentir. C'est sûr que la sexualité, même physiologiquement, c'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui provoque le développement des hormones du bonheur, comme on dit. Mais ceci étant, la vie intime, la sexualité, c'est un langage d'amour. Mais un langage d'amour parmi tant d'autres. Mais je reviens sur les anciens qui ont souvent raison, ils disent « Tu gardes un homme avec le ventre et le bas-ventre. » Le ventre, c'est la cuisine, et le bas-ventre, vous m'avez compris. Mais cela étant, là où par contre je mets un petit bémol, c'est la notion que on n'a pas forcément besoin de relations sexuelles, mais on a besoin de relations sexuées. Sexuées, ça veut dire que l'homme se sent homme, la femme se sent femme, qu'il y ait des câlins, qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait de la douceur.
Donc on ne s'appelle pas papa ou maman au bout de 10 ans de couple, quoi.
Je ne suis pas vraiment partisan de ça.
Okay. Alors, on parle de sexualité. Dans la sexualité, parfois, dans des histoires de couple, eh bien, il y a aussi des histoires d'infidélité. Alors, quand elle survient, bah, évidemment, les couples vacillent, je dirais. Est-ce que c'est vraiment inéluctable ou est-ce que parfois, ça ne peut pas aussi remettre quelque part le compteur à zéro?
Alors déjà, je suis désolé de vous dire, mais comptez pas sur moi pour dire que l'infidélité est une bonne solution pour réparer le couple. Par contre, les faits sont là. A posteriori, je ne dis pas en théorie, a posteriori, il est arrivé que notamment l'histoire d'un patient qui avait trompé sa femme et qui ne voulait même pas demander pardon d'ailleurs, parce qu'il a dit ben non, si je l'ai trompé, c'est que je ne l'aime pas, etc., etc. Mais avec un travail ensemble, il a pris conscience qu'en fait, c'est elle qui l'aime, que c'était un accident de parcours. Elle était aussi, je rappelle, je suis désolé de dire, il y a une co-responsabilité dans le sens quand on se laisse aller, c'est la porte ouverte aussi. Je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Chacun de nous doit. Il faut toujours comprendre qu'une relation, c'est un début tous les jours. Moi, j'adore la phrase de Fanfan, Sophie Marceau dans Fanfan, où elle dit « Je te quitterai tous les matins, tu auras toute la journée pour me reconquérir. » Mais ceci étant, l'infidélité ne doit pas être une solution à chercher. Mais c'est sûr que ça réveille.
Et le pardon dans tout ça, alors c'est une clé importante. D'ailleurs, quand il y a infidélité ou pas, se pardonner dans le couple, parce qu'on fait tous des erreurs, on ne respecte pas, on communique mal. Est-ce que le pardon, c'est une notion importante ?
Ah ben, le pardon, il fait 68 pages dans mon livre « Savoir s'aimer ». Donc ça va être difficile pour moi de le résumer. Ceci étant, je ne veux pas vous mentir, ce qui m'a amené à écrire ce chapitre et le développer, c'est justement l'histoire de deux couples où, dans un des deux, la femme, elle me dit « J'aime mon mari, je veux lui pardonner ». Il l'avait trompé, mais j'y arrive pas. Dans l'autre, c'était l'inverse. Elle l'avait pas trompé sur le plan sexuel, mais lui dit c'est même pire. Elle a trompé sur le plan de l'idéal. C'est-à-dire qu'avant de se marier, ils avaient fixé des projets. Elle a trahi. Donc, et il me dit, je m'en veux de l'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas croire que parce qu'on aime, est-ce que c'est plus facile à pardonner ? Pas forcément. C'est plus facile, mais aussi on se sent encore plus trahi.
Alors, on a une question de Christy sur Instagram. Elle dit « Le couple de ma meilleure amie bat de l'aile depuis quelques mois. Elle envisage de faire un enfant en espérant que ça arrange les choses. Je suis très dubitative. Est-ce que faire un enfant a déjà sauvé un couple ?»
Ah là là. Alors là. Un déséquilibre doit arriver à un moment d'équilibre. Un déséquilibre qui arrive sur un déséquilibre, il potentialise, il multiplie le déséquilibre. Donc, surtout pas, c'est pas du tout une idée. Est-ce qu'un enfant, ça consolide ? Oui. Mais encore une fois, a posteriori, pas si le couple est déjà fragile. C'est, pour moi, c'est comme une pyramide humaine. On stabilise d'abord la première rangée, la deuxième rangée, puis ensuite on installe la troisième rangée. Donc on n'ajoute pas un déséquilibre sur un déséquilibre.
Sur des fondations brinque-ballante.
Allez, une dernière petite question de Célia. Célia, et oui, ça passe vite, hein, malheureusement. Célia sur Facebook qui nous dit « Je suis en couple avec un Argentin depuis quelques années. Il souhaite qu'on s'installe en Argentine. Je suis très amoureuse de lui, mais j'ai beaucoup de réserves pour quitter mon travail, ma famille, mes amis. C'est normal ou est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas vraiment ?»
Alors ça, c'est un vrai souci et c'est une véritable question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Pourquoi ? Parce que dans le sens où d'abord, pourquoi ce serait la femme qui doit suivre l'homme et pas l'inverse ? Déjà, c'est une question, je la pose humblement. Et ensuite, le souci est que lorsque quelqu'un fait un investissement, un grand investissement, justement tout à l'heure on a parlé de sacrifice, ça met une pression énorme, énorme, qui fragilise déjà, dès le départ, le couple. C'est-à-dire, ou bien on adhère totalement au projet, et tant mieux, ou sinon, il ne faut pas le faire. Je dis ça pourquoi ? Même pour les petites choses. Vous savez, par exemple, la femme qui ne veut pas aller dîner chez ses beaux-parents. Eh ben, si elle ne veut pas y aller, il vaut mieux ne pas y aller. Mais si elle décide d'y aller, ce n'est pas pour faire la tronche. Donc ça veut dire que quand on décide un projet à deux, on a bien dit à deux. Donc on y adhère totalement. Sinon, si c'est pour mettre la pression, pour se mettre la pression, ça va
fragiliser
le couple. Et le
reprocher à l'autre, voilà. Mettre le couple en péril. Merci beaucoup Jacob Azéroual d'avoir accepté notre invitation
merci
ce matin.
Merci à vous Mélanie, et Julia et à Europe 1.
Merci pour tous vos conseils pour des vies de couple plus épanouies en 2022. On va essayer de suivre vos conseils. Merci.
Et oui Mélanie, on va maintenant changer totalement de sujet. On va faire un focus sur le périnée des femmes enceintes et des jeunes mamans. Comment le préparer à l'accouchement, le soulager après cette épreuve de force et même le réparer. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors voilà, pour mener à bien cet éclairage sur ce qu'est vraiment le périnée, cet ensemble de muscles dont on découvre l'importance bien souvent uniquement au moment de notre première grossesse, nous avons fait appel à une experte. Bonjour Soya Mohamed.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme et la fondatrice de Louvs, une marque française de soins bio pour les femmes enceintes. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que c'est pas évident pour tout le monde, alors Julia c'est une grande spécialiste, hein, vous allez voir,
périnée.
Elle est passionnée par le périnée. Non, ça c'est pas possible. Justement, qu'est-ce que c'est le périnée alors ?
Bah, comme vous l'avez dit déjà, ce n'est pas un seul muscle, mais c'est un ensemble de muscles et des ligaments qui vont venir fermer le bassin pour soutenir les organes du petit bassin. Donc on va retrouver la vessie, l'utérus pour les femmes et l'anus. Donc ça va être en gros un petit peu les fondations en fait du bassin
pour maintenir bah, tous les organes.
C'est une sorte de hamac musculaire.
Exactement,
un peu,
quand on regarde sur des planches anatomiques, si on a la chance de regarder, ça fait vraiment un hamac.
D'accord. Et excusez-moi, j'oublie toujours la réponse. Est-ce que les hommes aussi ont un périnée ?
Bah, tout à fait, les hommes ont un périnée. Déjà que les femmes, c'est un peu compliqué pour elles de se dire qu'elles ont un périnée. Les hommes, c'est encore plus difficile.
Restez avec nous, hein, messieurs, ça vous concerne également. Alors, le périnée, malheureusement, on l'a dit, on le découvre, nous, les femmes, souvent au moment de la grossesse et après la grossesse, parce qu'il a été éventuellement endommagé. Mais il sert à quoi concrètement dans notre corps, ce périnée ? On va quand même parler essentiellement des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe justement quand il a été endommagé par une grossesse ou un accouchement ?
Bah, le périnée, il va avoir plusieurs fonctions. Déjà, bah, comme on l'a dit, il va soutenir les organes, mais il va aussi contribuer au fait que bah, si on rigole, bah, on arrive à se retenir d'aller aux toilettes. Ça va nous permettre aussi d'avoir un bon maintien parce qu'ils vont travailler avec les abdominaux. Donc on va travailler sur la posture. Et puis, c'est aussi important pour avoir une vie sexuelle épanouie. Le périnée va contribuer à ça.
Alors, est-ce que toutes les femmes vont forcément avoir des dégâts au niveau de leur périnée durant leur grossesse ? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est plutôt un problème que l'on retrouve chez celles qui ont eu plusieurs enfants ?
Bah, pas forcément, c'est comme les vergetures, c'est comme pour les rides, on n'est pas forcément tout égal face à ça. Bah, forcément, quand on a eu plus d'enfants, bah, du coup, il y a forcément potentiellement plus de dégâts. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu 3 enfants qu'on va avoir un périnée plus endommagé que celle qui n'en aura pas eu. Parce qu'on peut aussi avoir un périnée endommagé sans avoir eu d'enfant.
Ah oui,
par le sport, par exemple.
Par le sport, ah ouais. Oui. Vous avez des joggeuses qui ont un périnée qui va être catastrophique parce qu'elles vont avoir des pressions abdominales.
Il est trop sollicité, en
exactement,
fait.
Exactement, hein, très sollicité.
Ah oui.
C'est tout ce qui va être les contractions hyperpressives sur l'abdominaux. Ça va être aussi, bah, si vous avez une rhinite et que vous toussez plusieurs mois dans l'année, bah, tout ça, ça va contribuer à avoir un périnée un peu plus affaibli. Et pareil, la constipation aussi.
On l'a dit tout à l'heure, pour les femmes, donc quand il y a des dégâts, il y a pas mal de soucis derrière. Mais pour les hommes, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un bon périnée ? Parce que parlons un petit peu d'eux quand même.
Le périnée chez les hommes, il va avoir le même rôle. Et du coup, bah, c'est pour éviter aussi les tracas de fuite urinaire chez les hommes qu'on va retrouver quand il y a eu des chirurgies de la prostate. Mais c'est aussi surtout intéressant pour les éjaculations précoces et aussi pour maintenir une érection plus longtemps lors des rapports sexuels. Le fait d'avoir un bon périnée, bah, ça va forcément améliorer les rapports sexuels.
Ça compte aussi pour ces messieurs.
Exactement. Et donc pour nous. Alors bien souvent, en fait, on l'a dit, on s'en soucie une fois que les dégâts sont là. On nous prescrit la rééducation post-accouchement. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait prévenir certains problèmes en amont ?
Bah, l'objectif, justement, c'est tout est là. C'est qu'il faut, une fois qu'il y a eu les dégâts, c'est jamais trop tard. On peut toujours rattraper, on peut toujours faire de la rééducation du périnée. Mais l'objectif des sages-femmes aujourd'hui, c'est d'expliquer le rôle du périnée et d'en prendre soin avant. Et surtout, la rééducation du périnée, ce n'est pas juste après l'accouchement. C'est toute sa vie qu'il faut apprendre à contrôler son périnée et à le muscler tout au long de sa vie pour éviter justement des dégâts plus tard.
Et ça, ce n'est pas forcément dans un cabinet de sage-femme qu'on le fait. On peut,
Ça peut être aussi chez le kiné, oui, effectivement.
Et à la maison, on ne peut pas juste...
On peut aussi, à la maison, pratiquer la rééducation du périnée via des exercices de visualisation d'images, tout à fait.
Est-ce que c'est prouvé, Soya, que préparer son périnée durant la grossesse, donc avant l'accouchement, est-ce que ça apporte un plus aux femmes qui l'ont fait par rapport à celles qui n'ont rien fait ?
Alors, on va préparer le périnée en vue d'éviter les épisiotomies ou les déchirures au moment de l'accouchement. Donc, on peut faire des massages pour essayer d'assouplir le périnée. Mais au-delà d'éviter ces éventuelles déchirures, le plus important, c'est aussi de prendre conscience de son périnée, de le visualiser et s'approprier son corps à ce moment-là, parce qu'on va être examiné par d'autres personnes et du coup c'est toujours bien de le faire en amont pendant la grossesse.
En amont, on le fait également après avoir accouché, mais alors la question qu'on se pose toutes, c'est par voie basse, il faut effectivement rééduquer son périnée, mais si on a eu une césarienne, est-ce que là encore il faut quand même rééduquer son périnée ?
Alors la rééducation du périnée, il faut le faire systématiquement. Après l'accouchement, vous allez avoir un rendez-vous avec la sage-femme ou le médecin s'il y a eu une césarienne et à ce moment-là on fait le point. Il faut savoir que ce n'est pas juste l'accouchement qui va abîmer le périnée, ça va être aussi tout le poids qui est lié à la grossesse, avec le poids du bébé, le placenta, l'utérus. Et du coup, bah, le périnée est forcément beaucoup plus sollicité.
Parce qu'imaginons, on a eu un accouchement parfait, il ne s'est rien passé, pas de déchirure, pas d'épisiotomie, mais si on avait pris, 30 kilos pendant la grossesse, bah, ce périnée, il a forcément morflé un petit peu.
C'est que c'est 30 kilos supplémentaires que le périnée va devoir gérer pendant plusieurs semaines. Donc, c'est toujours bien de faire le point.
Oui, donc la chose à faire, c'est faire le point
un point périnée après l'accouchement, que ce soit par voie basse ou
Julia
pas.
Le fait tous les mois, vérifie tout va très bien.
Mais moi, j'ai accouché il y a 15 ans, je suis allée voir une de vos collègues il y a 3 semaines. Elle m'a dit, mais alors vous venez d'accoucher madame? Je dis, pas du tout, c'était il y a 15 ans. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, je viens vérifier que mon périnée va bien. Et elle me dit, mais si tout le monde faisait comme vous, ça serait super.
Donc faites comme Julia Vignali.
Et j'ai un périnée d'enfer.
On ne peut pas en savoir plus, Julia.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et tout de suite, c'est du bien-être et de la santé des femmes enceintes, des jeunes mamans qu'on s'occupe, et plus particulièrement de cette zone de leur corps, le périnée, trop souvent négligée. On fait le point avec Soya Mohamed. Vous êtes sage-femme et la fondatrice de Louvs, une marque qui propose des soins bio pour les femmes enceintes. Alors justement, pourquoi avoir conçu cette marque et pour répondre à quelle problématique ?
Alors là, je vais parler un petit peu de ma vie perso. Donc j'ai accouché il y a 8 ans et quand je suis sortie de la maternité, on m'a donné une ordonnance avec du Doliprane, ma contraception et un rendez-vous 6 semaines après. Et du coup, même si je suis sage-femme, j'ai découvert vraiment le postpartum à ce moment-là. Sauf qu'avec les années qui passent, je continue de recevoir des patients, de les voir à domicile. Et finalement, rien n'est fait dans ce laps de temps et qui est au final très important. Pour le reste de leur vie future, en fait. Mmh. Et du coup, j'avais envie d'apporter un petit plus.
Un peu de réconfort.
Hein. Exactement.
Alors, chez Louvs, votre marque, donc on va trouver quel type de produit et combien ça coûte. Enfin, expliquez-nous en quoi consiste votre société.
Alors, du coup, on a conçu un rituel du périnée qui sera en 3 étapes. Donc, la première étape, ça sera de préparer le périnée à l'accouchement avec une huile de massage qui va permettre d'assouplir le périnée en vue de l'accouchement et surtout apprendre à le connaître. On a aussi développé des accessoires pour apaiser et réconforter le périnée juste après l'accouchement pour
quand
soulager les
douleurs. Quand on est à la maternité,
hein,
c'est ça.
Exactement. Hein. Et puis, dans un troisième temps, l'objectif, là, ça va être de réparer le périnée avec un sérum à base d'acide hyaluronique pour hydrater
on
et
avait
booster
pas tout ça quand on la cicatrisation.
Non, on n'avait pas du tout ça. Effectivement, le postpartum, on s'en souvient.
Alors justement, pour le préparer, le périnée à l'accouchement, vous avez dit qu'il y avait la première étape, on va dire, de votre offre, c'est ça, hein, le préparer avec des huiles de massage. Il faut commencer quand à se le masser, ce périnée? Parce que c'est de l'automassage hein, dont on parle.
C'est ça, c'est de l'automassage ou du massage à deux. Hein.
Voilà, chacun fait comme il veut.
Chacun fait comme il veut, mais c'est tout à fait possible si on n'est pas forcément à l'aise. Ouais. On peut faire ça avec son partenaire sans aucun problème. Du coup, effectivement, ça va être plus aux alentours du troisième trimestre, pas trop tôt, je dirais à partir du début du neuvième mois, c'est très bien.
Ah, d'accord. Donc on masque quelle zone précisément? Parce qu'appelons un chat, on dit le périnée, c'est
l'entrée
assez
du
large.
Vagin. C'est voilà. Vrai que le périnée, on a les muscles, mais on parle aussi d'une région. Là, on va venir masser le vagin.
D'accord. Mais j'imagine qu'il faut faire attention aux produits avec lesquels on va masser cette zone, parce que c'est une muqueuse, non? Il y a des huiles ou des trucs à éviter?
Tout à fait. Comme c'est une muqueuse, et en plus de ça, on parle de femmes enceintes, il y a vraiment des produits qu'il faut éviter, comme les parfums. On va retrouver aussi les huiles essentielles qu'il vaut mieux plutôt éviter quand on est enceinte. Du coup, il faut privilégier une huile végétale biologique.
Ok. Le plus simple possible, c'est
exactement.
Le mieux. Et on masse tous les combien? Du coup, on commence au troisième trimestre, on fait ça pas tous les jours quand même.
On peut faire ça si, tous les jours.
Julia, les massages, c'est tous les jours.
Écoutez,
du périnée ou ailleurs.
Ça se refuse pas, massage du périnée tous les jours.
10 minutes tous les jours, le matin, le soir.
L'idée, c'est d'assouplir, c'est ça, d'assouplir le vagin.
Exactement. En fait, avec l'huile, on va venir effleurer au début l'entrée de la vulve. Et puis, quand on se sent prête, on introduit juste le pouce au niveau d'entrée du vagin. Et on va venir faire des demi-cercles au niveau du vagin pour essayer d'étirer et d'assouplir cette zone.
Est-ce qu'il y a des exercices de contraction à faire pour préparer, là encore, le périnée à l'accouchement?
Alors, contracter le périnée pour l'accouchement, c'est pas forcément nécessaire, à part si on a des fuites urinaires, si on a déjà des petits soucis. Là, ce qu'on va rechercher au moment de l'accouchement, c'est plutôt la souplesse, assouplir le périnée.
Donc le massage. Mais par contre, la contraction du périnée, ça sert pour la vie sexuelle?
C'est ça. Donc on peut, si on a déjà, on sent que le périnée est fragilisé au cours de l'accouchement, on pourra effectivement faire de la rééducation du périnée. Et en aucun cas, ça va impacter l'accouchement. Parce que certaines femmes se disent, oui, mais si je contracte, est-ce que je vais réussir à accoucher derrière? Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Si on le propose, il faut le faire.
Mais alors, en quoi la contraction du périnée, si ça ne sert pas à l'accouchement, ça peut servir à une vie sexuelle? En quoi muscler, avoir un périnée en béton, ça permet d'avoir une vie sexuelle épanouie?
En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va tonifier les muscles, il faut imaginer aussi, c'est le clitoris. Le clitoris, vous avez la partie externe qui est le sommet de l'iceberg, et en fait, vous avez des branches
interne. Et en fait, les muscles du périnée, quand ils sont tonifiés, ils vont venir se rapprocher de ces fameuses branches internes du clitoris. Mmh. Ce qui fait qu'au moment où il y a de la pénétration, ça va renforcer ça, la sensation.
Les racines ne touchent plus rien si on n'est pas contracté. Donc il y a plus de plaisir. Quoi. Alors, au-delà de la prévention d'éventuelles déchirures ou autres, hein, cette préparation, donc avec ces massages, avec cette huile de soin, c'est aussi l'occasion de découvrir finalement cette zone de notre corps, notre intimité, parce que finalement, bah, c'est vrai, on ose à peine la regarder, hein, c'est encore super tabou. Vous l'avez consulté, vous, des tas de fois en consultation, je crois. Mais les femmes, elles ne sont jamais osées regarder seulement.
Il y a une vraie méconnaissance du corps humain et encore plus du périnée. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de proposer à mes patientes de regarder le périnée avec un miroir.
Pas le vôtre, hein, ceux de la patiente.
Non, celui de la patiente, bien évidemment. La plupart des sages-femmes libérales en ont, parce que justement, ça permet aussi de faire le point.
Et quand vous leur proposez ce miroir, parfois, c'est la première fois qu'elles regardent, en fait. Hein.
Exactement. Parfois, c'est la première fois. D'ailleurs, je vous ai apporté des petits miroirs.
Ah bah non. Alors, on va pas faire ça tout de suite.
C'est filmé, on peut pas. C'est trop mignon.
Ah, c'est gentil comme tout. Oh, ils sont beaux.
Ils sont magnifiques
avec des petites roses, des fleurs.
Tenez, voilà.
Très beau.
C'est votre moment.
Julia, est-ce qu'il nous reste à faire ce soir ? Non, pas maintenant, Julia.
Pour connaître son périnée, la première des choses, c'est d'abord de l'observer.
J'adore l'idée, mais je le ferai ce soir, promis.
Mais en même temps, ça peut servir pour se maquiller. Il est très mignon, votre miroir.
Oui, c'est vrai.
Mais dites-moi, je crois que le froid, c'est un outil très précieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que je crois que dans votre kit, il y a des objets qui créent du froid et qu'on peut apposer sur la zone périnée. C'est bien ça, après un accouchement douloureux, par exemple ?
C'est ça. On a juste l'image. On se cogne, notre enfant se blesse. On a un de ses premiers réflexes. Ça va être de prendre une poche de glace dans le froid ou un sachet de petits pois. Et en fait, le mécanisme, il est déjà connu. Donc le froid a un effet antalgique.
Sauf qu'à la maternité, on n'a pas toujours un congèle à côté et la poche de petits pois à disposition. Quoi, c'est
exactement.
Ça
et du coup, l'idée, c'était de proposer aux femmes la possibilité d'avoir une poche de froid instantanée.
Passez-moi la poche de froid.
La mettez pas tout de suite. Hein,
c'est incroyable.
Et en fait, elle est formée comme une serviette hygiénique. Elle est recouverte d'un gazon.
On vous la décrit, voilà, c'est une grosse serviette hygiénique, en fait, qui ressemble même un peu aux protections urinaires aussi.
La plier en deux.
Voilà. Ouais. Et elle va dégager du froid tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir de congélateur. Quoi,
non,
du coup.
Exactement. Et on a du froid pour un minimum de 20 minutes.
Ah, quand même.
Et du coup, il suffit juste de la glisser dans la culotte. Donc là, si vous observez bien, c'est assez léger. Oui. Parce que l'objectif, c'est de ne pas agresser le périnée avec un froid qui serait trop froid.
Oui, parce qu'il y a de l'œdème, il peut y avoir des hémorroïdes. Enfin, plein de choses très sympas.
Le froid va venir résorber, aider justement à décongestionner l'œdème et les hémorroïdes.
Mais c'est une très bonne idée. Hein,
moi, j'aurais adoré avoir ça à la maternité.
Exactement.
Les deux fois. Alors, se nettoyer cette zone aussi quand on est à la maternité, franchement, c'est pas une masse à faire, hein, parce que on n'est pas à l'aise, on vient d'accoucher, faut dire ce qui est, il y a du sang, enfin c'est compliqué quoi, c'est ce moment-là, et donc vous proposez aussi une solution là pour ça.
C'est ça, c'est qu'après l'accouchement, on a le col de l'utérus qui est encore ouvert, il y a des saignements, donc il faut nettoyer, et puis on peut aussi avoir des douleurs au moment où on va uriner, et du coup un des petits tips qu'on a pu conseiller, que j'ai moi-même conseillé, c'est d'aller sous la douche pour faire pipi. Sauf que quand j'ai accouché, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pratique
de se déshabiller entièrement.
Exactement. Alors du coup, c'était faciliter encore une fois la vie des femmes et dans la maternité et puis après à domicile avec un petit bidet nomade, tout simplement.
C'est une petite bouteille. Mais c'est tout petit. On dirait une gourde, hein, en fait.
C'est ça, en fait. C'est une petite bouteille avec un pulvérisateur. Exactement. Et du coup, ça va venir vaporiser le périnée là où il faut pour essayer d'atteindre toutes les zones.
Ah, c'est génial. Vous nous parliez tout à l'heure d'un sérum, je crois, qu'on peut s'appliquer. Hein. C'est bien ça. C'était un des troisièmes gestes, je crois. C'est quoi ce sérum qui va agir et de quelle façon ?
Alors, du coup, c'est un sérum réparateur qu'on a élaboré à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on le connaît très bien dans la chirurgie esthétique. C'est ce qu'on va utiliser pour booster en profondeur, pour les rides, l'hydratation.
Ça comble généralement l'acide.
Exactement. Et du coup, l'objectif, c'était de proposer ce qu'il y a de mieux pour le périnée, parce qu'il le mérite après tout, après ce qui s'est passé, après l'accouchement. On va retrouver également de l'argent colloïdal qui va venir assainir les plaies pour éviter le risque infectieux. Et plusieurs actifs, plusieurs plantes qui vont venir aussi drainer, calmer, apaiser la zone qui peut être douloureuse du coup dans le postpartum. Ça peut tirailler. Et du coup, l'objectif, encore une fois, c'est de venir masser pour assouplir s'il y a eu une épisiotomie ou une déchirure, une cicatrice.
Et où on peut trouver ces produits ou ça, en fait ?
Parce qu'on peut aussi les offrir à des jeunes mamans.
Exactement. Alors, on retrouve sur le site internet louvz.fr.
Louvz, L-O-U-V-Z. D'accord.
Pendant combien de temps il va falloir utiliser le sérum dont vous parliez qui répare, donc ce sérum à base d'acide hyaluronique, je ne sais pas combien de temps ça met à réparer tout ça?
C'est très dépendant, ça va dépendre des femmes. Il y a des femmes qui vont cicatriser assez rapidement et qui ne vont peut-être pas en avoir besoin très longtemps. En tout cas, on peut l'utiliser autant de temps que nécessaire. Et surtout, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il fait lubrifiant.
Donc c'est utile même pour après.
Justement, la vie sexuelle. Après, quand on reprend sa vie sexuelle, les rapports sexuels après un accouchement, ça peut faire mal. Et est-ce que c'est normal que ça fasse mal?
Si on a eu une épisiotomie, une déchirure, forcément, les tissus sont lésés, donc ça peut être douloureux. Et puis après l'accouchement, naturellement, il va y avoir une chute d'hormones va provoquer une sécheresse vaginale. Donc oui, ça peut faire mal si on n'est pas bien préparé. Et encore une fois, l'objectif, c'est de dire aux femmes, il faut anticiper cette période-là, il faut anticiper que la cicatrice peut être douloureuse et du coup masser la cicatrice.
On peut masser la cicatrice?
Exactement, il faut masser la cicatrice. On peut attendre quelques semaines pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et bien évidemment, si on a le moindre doute, on va voir sa sage-femme. Puis si vraiment on est inquiète, on attend le feu vert de sa sage-femme pour masser, tout simplement. Mmh. Et puis prévoir un lubrifiant pour la reprise des rapports sexuels.
Bon, et tout ce qu'on vient de dire, donc le préparer, se périner, le soulager quand on est à la maternité et puis le réparer ensuite une fois à la maison, on est d'accord, ça n'enlève pas l'intérêt de la rééducation du périnée, au moins du check-up qu'on va aller faire chez le kiné ou la sage-femme après l'accouchement. Toutes les femmes doivent aller faire ce check-up, hein, c'est important.
Surtout, il faut absolument le faire, d'autant plus qu'on a énormément de chance en France, et je le rappelle à mes patientes qui ont du mal à venir passer le petit contrôle du périnée, c'est que c'est pris en charge totalement par la Sécurité sociale en France. Mmh. Donc on n'a pas avancé de s'en priver. Frais, donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Et du coup, il faut faire leur rééducation du périnée, même si c'est une à deux séances.
Bien sûr.
Donc c'est toujours bien de refaire le point, de visualiser, de contracter.
En plus, on vient vous voir et peut-être vous allez nous dire, vous n'avez pas besoin de séance de rééducation.
Ouais. C'est possible, c'est parfois ça va bien. Et c'est une super bonne nouvelle.
Bien sûr.
Les femmes, elles attendent justement ce petit rendez-vous pour savoir si...
Et celles qui ne l'ont pas fait, qui ont été des très mauvaises élèves.
Vous n'avez pas fait,
la deuxième fois, j'ai un peu zappé. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard, je veux dire, même si on a accouché il y a 4 ans, par exemple, d'aller checker?
Comme je dis à mes patientes, mieux vaut tard que jamais.
Donc même à 55 ans, on peut aller refaire une rééducation, quoi.
Comme je le disais, c'est pas de la rééducation, c'est de l'éducation au périnée, et ça se fait tout au long de sa vie, à 55 ans encore plus, parce qu'avec le changement hormonal, le périnée va à nouveau s'affaiblir, et du coup c'est toujours bien de faire le point encore plus à cet âge-là, où c'est là où on va voir apparaître des difficultés, des complications liées au périnée.
Donc en fait, on pourrait tout à fait se dire que tous les 5 ans, on fait un petit bilan périnée chez sa sage-femme, ou c'est un peu abusé là?
Non, on peut tout
ça
à fait.
Mal,
je dirais même, pourquoi pas tous les 2 ans. Et puis, au-delà de la sage-femme, moi, ce que je propose à mes patientes, c'est d'acheter des petites boules de geisha.
Ah oui.
Elles les ont avec elles. Et puis, de temps en temps, si elles veulent les ressortir, allez, disons, tous les ans, je me refais mes petites séances, je remets mes petites boules de geisha, je me fais ma petite rééducation, et puis tout va bien. Et puis si je sens que je suis en difficulté, que c'est plus comme avant, je retourne voir ma sage-femme ou mon kiné, je refais ma rééducation.
Eh bien, merci beaucoup.
Petit
Soya.
Bonus à la fin avec les boules de geisha.
C'est super.
On a tout dit.
Eh bien, on les aura toujours sous la main grâce à vous. Merci de nous avoir accompagnés ce matin pour nous faire découvrir tous les secrets du périnée et surtout les astuces pour en prendre soin pendant la grossesse et après toute la vie. On y voit plus clair grâce à vos explications. Merci.
Merci beaucoup Soya. Et maintenant Julia, on va lancer notre séquence tendance. Alors il y aura d'abord la chronique gastronomie avec le chef pâtissier Jeffrey Cagne qui va nous révéler les secrets de la galette des rois, c'est de saison, et il va nous régaler comme toujours. Ensuite nous écouterons l'éclairage de Séverine Pierron sur ses vidéos hypnotisantes sur internet, une sorte d'ASMR pour les yeux, vous allez tout comprendre. Et enfin avec Elsa Lévy, on va vous inviter à mettre de la pagaille chez vous. Oui, vous avez bien entendu, on va découvrir ensemble les bienfaits du cluttercore. Ça vous intrigue, non? Alors restez sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, les tendances dans tous les secteurs qui rendent notre vie plus agréable, plus facile. Alors justement, ce qui est particulièrement agréable en général, ce sont les conseils du chef pâtissier Jeffrey Cagne. Bonjour Jeffrey.
Bonjour. Salut Mélanie, salut Julien.
On est le 7 janvier, moi j'ai bien compté, hein, donc évidemment on va parler galettes. Alors on dit que c'était hier, mais je crois qu'on a le droit de manger tout le mois de janvier, non?
Alors on peut en manger tout le mois de janvier.
C'est ça.
Quand c'est bon,
C'est long.
Vous êtes team quoi, frangipane, brioche?
Frangipane.
Ouais, moi
frangipane.
Aussi. On est dans la même équipe.
Ah, trop bien. Moi, je suis team tout, moi. Ensuite, ce sera à vous de jouer, Séverine Pierron. Vous allez nous hypnotiser aujourd'hui, enfin nous parler de vidéos presque magiques qui scotchent littéralement ceux qui les regardent. C'est bien ça?
Tout à fait. Je vais vous parler de ces vidéos que l'on trouve sur les réseaux sociaux et qu'on pourrait pratiquement appeler de l'ASMR des yeux.
Ah, j'adore. Oh, de l'hypnose, quoi.
Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. Et enfin, on terminera la séquence tendance du jour avec vous, Elsa Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Avec une chronique joyeusement bordélique ce midi, je crois.
Voilà, c'est ça, c'est la nouvelle tendance art de vivre qui explose sur les réseaux, le bordel à la maison, je vous explique tout.
Ça s'appelle le cluttercore, vous
Pardon,
verrez.
Le cluttercore,
on vous en dit
oui,
plus dans quelques minutes avec Elsa Lévy. Mais à présent, on va passer en cuisine dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Jeffrey Cagne, c'est à vous. On va décortiquer et déguster, bien sûr, une bonne galette avec vous aujourd'hui. Mais on est le 7. Alors, j'ai dit, les rois, c'était hier. Non, c'est ça, c'est le 6.
C'est le 6, je crois.
Non, 4. C'est le 6. Ouais. C'est le 6, mais bon.
Donc, on a le droit, vous avez dit, tout le mois de janvier, voire février, voire mars. Ça va jusqu'à quand, la galette?
Mais en fait, ça, c'est tout le mois. Déjà, ça commence pour presque tous les pâtissiers, les boulangers, le premier week-end après le nouvel an.
Ah oui, donc c'est depuis le 1er janvier, vous n'arrêtez pas de faire de la galette.
On a commencé le 2.
Ah ouais.
Et en fait, parce que aujourd'hui, les gens attendent la galette comme le Messie. C'est, je crois, le dessert préféré des Français.
C'est vrai. Et là, on est le 7. Depuis le 2, vous en vendez beaucoup de galettes. Il y a une ruée de la galette ou pas?
Alors, il y a une ruée de la galette. C'est, ce qui est fou, c'est que les gens ont mangé quand même les bûches.
Ça veut dire qu'on n'a pas lésiné sur les excès pourtant.
Voilà, ouais. Et ont mangé quand même le 31.
J'avoue que moi, je me dis toujours, la galette, allez, c'est le dernier extra avant la diète, quoi. C'est ça.
Bah, il y a des gens qui pensent comme vous, mais pendant un mois.
Oui. Donc, j'avoue, je fais ça aussi parce que moi, c'est mon gâteau d'anniversaire chaque année, la galette des rois.
Mais ça veut dire qu'on va trouver des galettes chez tous les pâtissiers pendant tout le mois de janvier, vraiment?
Alors, généralement, franchement, tout le monde fait pendant un mois des galettes. Il y a une diminution des autres desserts, donc on principalement on trouve des galettes. Et aujourd'hui, en fait, les pâtissiers s'efforcent à trouver des nouvelles variantes de la galette.
Mmh.
Parce que c'est devenu un peu comme les bûches, c'est une nouvelle collection et on attend tous la galette qui fera la meilleure galette.
Et qui fera la différence surtout, ouais. La galette tendance, il y a beaucoup de déclinaisons non, maintenant, il y a quoi comme déclinaison
galette?
Alors
il y a énormément de déclinaisons, on trouve alors déjà bien sûr la bordelaise qui est la galette du sud de la France, donc c'est pas réellement...
La brioche là,
c'est la brioche avec les fruits confits, la fleur d'oranger.
Vous dites ça avec un peu de mépris, on sent que vous l'aimez pas celle-ci.
Pourtant je suis du sud, hein, mais vraiment je... Non.
Vous l'aimez pas?
Non, j'aime pas les fruits confits trop non plus.
Après, il faut aimer les fruits confits, il faut aimer la fleur d'oranger, mais c'est vrai que...
Si, ça j'aime la fleur d'oranger.
Aujourd'hui, en fait, c'est décliné, on voit des galettes qui sont faites à base de pain, on voit des galettes qui... En fait, c'est souvent la pâte qui est changée. Mmh. On voit des galettes qui sont faites à base de brioche style babka.
Là, ça doit pas être mal.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Ça, je valide.
Mais on voit aussi des frangipanes qui changent. En fait, la vraie frangipane, c'est à la base d'une crème pâtissière avec de la poudre d'amande. Des œufs et autres, un petit peu de rhum généralement, et aujourd'hui on en voit à base de pistache, à base de noisette, à base de cajou, à base de framboise, à base... En fait, aujourd'hui il n'y a plus de limite dans l'intérieur des galettes.
Mais il y a une tendance cette année, je ne sais pas,
c'est quoi la galette Jeffrey Cagne de 2022?
Alors moi je suis très très classique, j'ai préféré garder une frangipane en mettant juste une touche de noisette et de fleurs de sel, mais c'est vrai que je trouve que la tradition de la galette, ça reste une galette feuilletée avec une
frangipane. C'est ce qu'on a devant nous, Jeffrey. Qu'est-ce qu'on a dans les petits... C'est la vôtre, hein, celle-ci.
Alors, c'est ça. Donc, un feuilletage inversé, donc très beurré, avec une frangipane amande, une petite pointe de rhum et un petit peu de pâte de noisette.
Ça veut dire quoi, frangipane inversée? Feuilletage inversé.
Alors, vous avez deux types de feuilletage. Il y a un feuilletage ordinaire, qu'on appelle ordinaire, donc avec une détrempe et du beurre touré. Oula, et vous avez un feuilletage inversé où le beurre est à l'extérieur et touré, donc elle est beaucoup plus beurrée, beaucoup plus grasse et en fait presque fondante. Le feuilletage croustille,
bon,
mais fondant aussi.
Ça, c'est
à
la vôtre.
Donc c'est gras, il n'y a pas de secret. Hein. Si c'est, faut que ce soit bon, il faut que ce soit
à
gras.
À chaque fois, c'est ma devise. Quand c'est bon, c'est gras.
Ouais, c'est ça, c'est clair. Et où est-ce qu'on peut trouver, en dehors de chez vous, évidemment, de bonnes galettes? Est-ce que vous avez de bonnes adresses?
Alors,
à nous conseiller?
Au Sable d'Olonne, Vincent Vallet, qui est un chocolatier, un jeune chocolatier, qui est à peu près mon âge, un ami, d'ailleurs, je l'embrasse.
Jeune.
La quarantaine, quoi.
Non, un peu moins.
Ah, pardon.
Un peu moins. Je ferai mes 36 ans l'année prochaine. Cette année. Donc je suis encore bien jeune.
Très
jeune.
Chocolatier, donc fait une très bonne galette.
Voilà, une galette pareille, très classique, magnifiquement finie, les finitions parfaites. Donc Vincent Vallée. Au Sable d'Olonne.
Ouais. D'accord, et si on n'est pas au Sable d'Olonne, on a d'autres...
Bah venez chez moi, si vous êtes à Paris, venez chez moi. On fait de très bonnes galettes aussi. Non, mais, après,
non, mais moi j'ai une autre idée, autrement on la fait nous-mêmes. Mais est-ce que c'est possible de la faire soi-même?
Alors, moi j'ai déjà fait.
C'est vrai?
Ouais, j'ai fait une galette, elle était très bonne.
Et vous avez acheté le feuilletage?
Oui,
voilà.
J'avoue.
Ah, alors, on peut acheter le feuilletage?
Bien sûr qu'on peut acheter le feuilletage. Aujourd'hui on trouve du feuilletage, mais même on peut demander à son boulanger.
Il accepte ça, le boulanger, si on lui demande?
Ça dépend, si il est gentil, il accepte.
Il va dire, mais je revends de la galette, madame.
Oui, mais bon, je pense qu'il y a le plaisir personnel de vouloir faire sa galette, et je peux concevoir que les gens aient envie de faire ça.
On lui demande quoi au boulanger, alors?
Alors, vous demandez soit un petit bout de pâton de feuilletage, ou sinon, vous avez aujourd'hui les grandes surfaces qui vendent du feuilletage, ou sinon, vous avez des magasins spécialisés, notamment chez G2Tout. Moi, je parle pour Paris, après, je connais un peu moins la province, mais G2Tout, donc un magasin à Châtelet, qui vend, lui, sa pâte feuilletée.
Ah, génial.
Bon, moi, j'achète des rouleaux bio, et franchement, ça a fait l'affaire. Hein,
et pourquoi vous dites, vous conseillez aux gens d'acheter la pâte feuilletée? La faire nous-mêmes, c'est vraiment, c'est très difficile.
C'est quand même assez difficile.
C'est
faut savoir que même mon père, qui était dans le labo cette semaine, il m'a dit que c'est quand même très dur de faire la pâte feuilletée, en fait, parce qu'il y a un temps de repos, il y a minimum 24 heures pour, entre chaque tour.
Il faut combien de tours?
Il faut 6 tours.
Oh, non, on va l'acheter en la pâte feuilletée toute faite.
C'est plus simple.
Une fois qu'on a la pâte feuilletée toute faite, alors.
Une fois qu'on a la pâte feuilletée toute prête, donc on prend ces deux abaisses, donc ces deux disques de pâte, il en faut deux pour fermer la galette.
Dites plutôt disque que abaisse.
C'est vrai que les abaisses, c'est compliqué.
Ça prend rien, c'est un quartier, les abaisses.
Du coup, vous avez vos deux disques de pâte feuilletée. Acheter ou fait maison, ça, les recettes de pâte feuilletée, il y en a un peu partout, ça va être trop compliqué de le dire, on n'a pas le temps. Donc vous faites une crème d'amande, donc une frangipane, donc on appelle ça aussi crème d'amande, la seule différence c'est pâtissière dans la frangipane et pas de pâtissière dans la crème d'amande. Donc vous mettez 125 g de sucre au batteur ou à la main, avec 60 g de beurre mou type pommade, donc un beurre qui est passé un petit peu au chaud. Deux œufs frais.
Pas au micro-ondes, hein, Julien, vous le laissez ramollir simplement. Ah oui.
Voilà. Non, ça sera fondu.
Je précise, hein, Geoffrey, je fais le décryptage.
Parce que là,
Julien,
je suis vraiment à deux doigts de l'affaire. Hein.
150 g de poudre d'amande ou de poudre de noisette, non torréfiée, c'est meilleur, ça garde le gras. Une gousse de vanille ou pas, ça c'est facultatif. Deux cuillères à soupe de rhum ou pas, tout dépend si on aime le rhum.
Facultatif aussi.
Et puis, on mélange le tout. Donc là, il n'y a pas de crème pâtissière, c'est vraiment la version simple. Mmh. On mélange le tout, on la fait bien foisonner.
Foisonner,
c'est au batteur, on la fait tourner pour qu'elle soit bien homogène.
Voilà.
Et ça, en fait, on va venir le mettre dans notre disque de pâte feuilletée.
Dans le premier disque.
On va légèrement humidifier le contour pour bien fermer. Elle s'endort, Julia. pour bien fermer la galette.
Vous humidifiez avec de l'eau, Julia.
On raye cette galette comme on veut. On marque Julia, marque Mélanie.
Julia, meilleure pâtissière.
Voilà, c'est ça. On met ça au four pendant à peu près 40 minutes à 180 degrés. Et il y a juste à déguster, mais il ne faut pas oublier de mettre la fève.
Ah, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a une tendance de fève cette année?
Il y a des tendances de fèves tous les ans, tous les gens...
Est-ce que j'ai la fève d'ailleurs?
Non, je ne pense pas.
Il
n'y
a pas de fève?
Si, il y a une fève.
Bon, Julia, comme vous, je sais que de toute façon, vous n'allez pas la faire, la galette. Non, je tiens à préciser quelque chose quand même, parce qu'il est très timide, en fait, il n'ose pas le dire, mais il a quand même été élu, Geoffrey, meilleure galette de Paris.
C'est pas vrai.
Oui,
et il veut rien nous dire depuis
tout
à l'heure.
C'est vous la meilleure galette?
Oui. On a le roi,
c'est
roi
la meilleure galette.
Passez là tout de suite. Je comptais pas la manger, mais maintenant.
J'ai tapé dedans, donc je vais en recouper un petit bout.
Ah bah oui. Alors une petite part, s'il vous plaît.
Toute petite.
Même lui, il aime, c'est dire si elle est bonne.
Vous êtes la meilleure.
C'est vrai que j'aime la galette. On va donner la couronne à. Oui, pour moi, c'est bien, ça me va bien.
C'est vous le roi de la galette.
Non, mais j'ai découvert ça hier et voilà.
Bravo, Geoffrey, en tout cas.
Franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications, ces conseils pour réaliser la galette des rois parfaite qui mettra tous les gourmands d'accord. Vous bougez pas, dans quelques minutes d'autres tendances vont suivre. Il y aura d'abord le décryptage de Séverine Pierron sur ses vidéos sur les réseaux sociaux, notamment celles qui hypnotisent les jeunes et qui sont parfois un petit peu dégoûtantes. Elle va nous expliquer ce phénomène. Et puis il y aura aussi la chronique d'Elsa Lévy sur le clutter-core, quand le désordre devient tendance. J'ai hâte d'en savoir plus, même si je crois que je préfère ne pas être trop à la mode sur ce coup-là. En tout cas, un beau programme nous attend encore, alors restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi et notre séquence tendance se poursuit toujours dans une ambiance très conviviale avec nos trois chroniqueurs dans ce studio.
On s'est régalé avec les galettes de Geoffrey, la meilleure galette de Paris. Non, franchement, on a de la chance.
Je peux vous le dire, là, j'en ai mangé, là, elle est dingue parce que la noisette.
Vous avez dévoré, mangé, oui, c'est un faible mot.
C'est vrai, j'ai dévoré. Mmh. Et puis elle est fondante, on dirait une motte de beurre avec un peu de noisette. C'est
magnifique. Oh là là, vous avez vu Geoffrey comme elle parle de votre galette.
Meilleure galette de France. Et à présent, eh bien, c'est à vous, Séverine Pierron, de prendre le micro. On vous écoute.
Alors moi aujourd'hui je voulais vous parler de ces vidéos étranges qu'on regarde en boucle sur les réseaux sociaux. Alors vous avez peut-être déjà remarqué votre voisin dans les transports en commun, scotché sur son téléphone, qui regarde des vidéos hyper bizarres, voire même un petit peu dégoûtantes.
Ouais, j'ai vu ça moi.
Alors, c'est pas du porno j'espère.
Non, je vous parle pas de porno, enfin presque, mais plutôt d'une nouvelle forme de porno qui est relativement inoffensive, hein, celle-là, qu'on trouve donc sur les réseaux sociaux. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous explique rapidement. Ce sont de mystérieuses vidéos qui durent à peine 10 secondes et qui proposent en gros plan, et donc à un rythme frénétique, des trucs hyper étranges et surtout totalement hypnotiques.
Mais qu'est-ce qu'on y voit exactement ?
Vous n'êtes jamais tombé là-dessus, moi ça
non.
Moi, j'ai vu des trucs avec du sable qui coulait. Là. Enfin bon, bref.
Alors, voilà, on y voit, alors, c'est vraiment très varié. On y voit par exemple des gouttes qui tombent au ralenti, des manucures pailletées en gros plan, des éponges remplies de slime, cette matière gluante d'origine inconnue, des tours de potiers arc-en-ciel, des machines de pâtisserie industrielle en train de cracher des saucissons de pâte.
Ah, là, j'ai envie de vomir, par contre. J'aurais préféré qu'ils crachent des galettes, par exemple.
Ou alors des mains, parfois, en train d'effriter des craies ou de couper des légumes ou même de racler des savonnettes. Alors,
ah, bah, d'accord.
Donc, les contenus sont très variés, mais surtout hyper chelous.
Ah, ouais, c'est bizarre.
Alors, on les trouve, parce que Julia, apparemment, n'est pas tombée dessus.
Non,
mais
tombée
j'en ai vu déjà. Mais j'ai l'impression que c'est comme des spams. Moi. Elles sortent toutes seules sur mon téléphone.
Alors, en fait, ça dépend évidemment de vos préférences. C'est l'algorithme qui calcule ça, en fait, si vous avez déjà cliqué sur une vidéo étrange.
Donc il y en a d'autres qui arrivent. Eh oui,
c'est, ouais, c'est ça votre problème, Mélanie.
J'ai des
vous avez cliqué, Mélanie, chelou. C'est ça. Sur Instagram, on les trouve dans les Reels. Alors les Reels, ce sont ces courtes vidéos que vous pouvez obtenir très facilement quand vous accédez à votre page d'accueil. Et par exemple, sur Instagram, il y a plus de 3 millions de contenus de vidéos comme ça étranges. Sur YouTube, il y a même une chaîne dédiée. Hein. Et évidemment, sur TikTok, il y a énormément de contenus comme ça. Il y a après même 55 milliards de vues.
Dingue.
Pour des vidéos qui sont rangées en fait toujours sous le même mot-clé. Et c'est un hashtag qui s'appelle Oddly Satisfying.
On va l'épeler quand même pour nos auditeurs. C'est comment ?
Alors, c'est O-D-D-L-Y. Après, Satisfying, c'est S-A-T-I-S-F-Y-I-N-G. Ça veut dire en fait...
super satisfaisant, quoi, c'est ça, non ?
En fait, voilà, en français, ça veut, on pourrait traduire ça par c'est bizarre, mais ça me fait du bien.
Ah, d'accord. Et mais pourquoi on est accro à ce genre de contenu, alors ?
Bah, en fait, le visionnage de ce type de vidéo aurait, selon les spécialistes, d'étonnantes vertus comme celle de calmer les sujets anxieux en libérant de la dopamine dans certaines zones du cerveau, par exemple. Mm-hmm. En fait, c'est presque de l'hypnose, si vous voulez, ou c'est une forme d'ASMR pour les yeux.
Mmh. Ah. Geoffrey ne pourrait pas faire ça avec quand il est en train de faire sa frangipane. Bah là, justement, il filme juste en gros plan la frangipane en train de.
Il y a beaucoup,
c'était
beaucoup
quoi, le
de
mot
vidéos
que vous utilisiez
comme
pour quand on remue là la frangipane, non
remuer.
Non, non, vous avez dit un autre truc.
Foisonner.
Ouais. Pendant que vous foisonnez, vous filmez en gros plan et vous faites des vidéos pour les gens comme ça.
Il y a énormément de vidéos comme ça, de pâtisserie, on voit en gros plan des. Ouais, des machines en train de fabriquer de la pâte.
Je me rends compte que ça fonctionne bien.
Ah, vous mettez parfois des vidéos comme ça ?
À chaque fois qu'on fait des gros plans sur quelque chose, une crème ou autre, on a vraiment... Voilà, et quand on voit la vanille, quand on voit des flancs de la crème à flancs, il y a vraiment une grosse visibilité dessus.
Ah ouais. Mais c'est du fétichisme. Ouais,
c'est,
voilà.
C'est du porn food.
Tout à fait. En fait, c'est du fétichisme, si vous voulez. C'est une forme de fétichisme. Il y a par exemple beaucoup de vidéos de doigts en train d'écraser des formes molles. Ah. Donc, c'est parfois un petit peu tendancieux, je dois dire. Et c'est une forme d'ASMR, en fait. L'ASMR, vous connaissez. C'est...
Bah justement, on en a parlé à vous. Hein, Mélanie, c'était quand ? C'était mercredi, non ?
Oui, c'est ça.
Ouais,
alors l'ASMR, vous connaissez. Alors en anglais, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Alors je ne vous le traduis pas, mais en fait, ce sont des stimuli sonores, et donc là en l'occurrence visuels, qui induisent une forme de presque hypnose et donc de relaxation. En fait, il y a des tas de podcasts, vous le savez.
D'ASMR.
D'ASMR.
Pour s'endormir notamment. Moi, j'en écoute, hein, c'est super.
Avec des sons de.
Avec quel type de bruit pour vous ? C'est quoi votre préféré ?
Moi, vous savez ce que j'aime, Mélanie ? Moi, c'est les bruits du feu de cheminée qui crépite.
Ah, j'avoue, j'adore.
Voilà, il y a les vagues parfois, il y a des gazouillis d'oiseaux, des gratouillis aussi, des gens qui chuchotent.
Geoffrey, qu'est-ce qui vous plaît, vous, à écouter ?
Ma fille s'endort avec la rivière. Ah. L'eau qui coule, un peu comme
elle la pratique déjà la ASMR, elle est toute petite.
Non, mais ça les endort.
Mais j'aimerais bien trouver un bruit de train. Vous savez, moi je suis une fille de cheminot, donc je crois que le train, ça me ferait du bien. Ça me fait dormir le train, non?
Ça dépend. Enfin, oui. Tchou-tchou!
Non, le roulis.
Oui, le roulis.
On appelle ça les bruits blancs, non? Presque.
Alors, le bruit blanc, c'est plutôt le bruit. Non, c'est plus quand votre télé, par exemple, est restée allumée et que ça fait.
Okay.
Ça, c'est le bruit blanc.
Vous faites hyper bien la télé.
Ouais, la télé qui reste allumée. Merci, on l'a déjà.
C'est une vieille télé, par contre.
Non, les bruits blancs, c'est tous les bruits de radio, de grésillement qui sont...
Il me semblait que le sèche-cheveux ou l'aspirateur... Ah,
Julia, c'est pour Julia.
Non, c'était pas celui-là. C'est pas celui-là qui me fait... C'est pas celui-là qui me fait dormir, c'est le... Tu sais, le train à couchette, là, quand on dormait. Ah ouais, voilà, il le fait bien, Geoffrey. Ah, je l'adore celui-là. Il fait dormir.
On pourrait presque enregistrer un podcast d'ASMR tous ensemble.
Tous
en fait.
Ensemble, là, on a fait.
Mais ça veut dire
bon
que notre voisin qui regarde la vidéo, c'est pas un pervers en fait.
Alors pas du tout. Finalement, votre voisin dans le train, c'est pas un gros pervers. C'est juste quelqu'un en fait qui a un gros besoin de se détendre dans les transports en commun. Et ça, on peut le comprendre.
C'est ce qu'ils disent bon. Tous.
Jeffrey, vous faut quoi comme type de vidéo? Qu'est-ce qu'on peut vous commander pour vous faire du bien? Vous aimez regarder des vidéos de pâtisserie? Non, bah, peut-être pas quand même.
Si, si, je
ça
regarde.
Vous rappelle
si c'est un gros pervers,
ah ouais
regarde les vidéos.
Non,
les
non,
vidéos
non,
de pâtisserie
je regarde parce
soir.
Que de temps en temps, quand on regarde ce genre de vidéo, on apprend des nouvelles choses et
bien
moi
bien
je suis un éternel
mais vous apprentissage ça. En fait vous vous détendez pas, vous apprenez quoi, donc
j'apprends,
vous travaillez quoi, c'est pas hyper
c'est pas
détendant
ça ouais. Me détend
d'accord.
Eh bien, merci Séverine. Hein.
Merci Séverine pour ce décryptage très intéressant qui nous éclaire donc sur. C'est pas que les jeunes, hein, d'ailleurs, je dis les jeunes, mais c'est des jeunes ou les vieux. Enfin, n'importe qui peut regarder ce genre de choses et se détendre avec ces vidéos. Alors, je sais pas si c'est débile. Non, on va pas dire débile,
non.
Mais
étrange.
Ben étrange.
C'est vraiment hypnotisant. En fait, c'est à la fois c'est fascinant et un peu dégoûtant. Ça fonctionne sur les deux. Voilà, attraction, répulsion.
Et vous, vous êtes laissé prendre ou pas, Séverine, par le truc?
Pas trop, mais je dois dire que mon fiancé regarde très souvent des vidéos de bricolage.
Ouais.
De,
en voilà. Gros plan, donc.
Par exemple, des perceuses qui font dans des trous comme ça, c'est un peu. Je ne sais pas qu'en ouais. Penser.
Oh, non, mieux les perceuses que d'autres trucs, je pense. C'est assez sain, la perceuse. Merci beaucoup, Séverine. Alors, on va passer à une autre tendance qui, celle-là, va paraître folle, je pense, à Julia Vignali.
Pourquoi
le cluttercore. Écoutez bien, Julia. Enfin, Elsa Lévy va tout nous expliquer, surtout Elsa, on vous écoute.
Ben oui, alors, vous vous souvenez, l'an dernier, on avait parlé du lagom. Alors, en disant ça, on dirait que l'émission a 100 ans, c'est cool. Bref, on avait parlé de cette tendance suédoise dans l'esprit de Marie Kondo qui nous invite à vivre avec le minimum,
ben oui.
Voire avec rien du tout. Et bien aujourd'hui, on change tout. C'est poubelle, le minimalisme, le zen, le feng shui et compagnie. Maintenant, on va opter pour le maximalisme.
Mais quelle horreur.
D'ailleurs, Julia,
voyez,
je sais que vous êtes...
Dit.
Voilà, vous, vous êtes très branché ménage et rangement, mais bah, Mélanie, chez
c'est
vous, c'est plutôt...
Non, ça va, moi, je suis l'inverse de Julia. Donc
voilà,
ça
donc
va. Moi,
bon.
J'accumule un peu trop.
Il faut une contre-tendance. Alors, le cluttercore, c'est la contraction de clutter, qui veut dire encombrement et désordre, et de core, qui en anglais signifie l'appartenance. La tendance est née pendant les confinements. Sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous manquez de followers hein, sur vos réseaux, sachez que le hashtag cluttercore fait des émules sur Pinterest, TikTok et Instagram. En fait, si le Covid a mené la vie dure à bon nombre de business, il semblerait qu'il n'ait eu de conséquences sur le marché de la décoration d'intérieur. On note une augmentation de 30% sur les commandes de meubles, vaisselle, rideaux, et même sur les ventes de cuvettes
d'essai. J'avoue, j'en ai acheté deux pendant les confinements. Des cuvettes, mais elles se sont cassées.
Il y a des gens qui achètent
deux cuvettes.
Ce qui est très bien. Alors, pour vous donner une idée, je vous laisse regarder les photos que je vous ai apportées de ces exemples. Est-ce que ça vous
on
vous
les mettra comme ça sur nos réseaux sociaux, bien sûr.
Donc, j'ai pris les plus jolies. Hein.
Je peux vous dire un truc?
Oui, allez.
C'est des intérieurs cluttercore,
ça. Ça vous angoisse.
Ah, mais ça m'angoisse.
C'est joli, mais chargé, quoi.
J'ai
fait un peu les images sur mes appartements avec beaucoup de déco, plein de petites tasses, plein de bits bleus.
Beaucoup de couleurs aussi.
Beaucoup de couleurs.
Non, mais alors, c'est ça. Le cluttercore, c'est le bordel organisé, c'est des associations improbables d'éléments et on ose tout. C'est une décoration surchargée de l'excès de matière, aucune cohérence, hein, si ce n'est d'amonceler des objets. Alors, car selon la designer anglaise Alison Lloyd, qui a travaillé avec, par exemple, la marque Apple ou la Tate Gallery, selon elle, la maison, c'est plus qu'un lieu de vie, en fait. C'est une extension de soi, une archive vivante, une exposition de nos souvenirs, de notre mémoire. Bref, c'est une sorte de musée. Alors, il y a d'ailleurs un livre intitulé « Clutter and Untidy History », écrit par Jennifer Howard, qui explique qu'en ce moment, avec la crise, les gens sont dans une approche d'auto-apaisement et d'auto-réconfort. Elle explique que l'abondance nous attire davantage car de nombreux pans de la vie sont limités. Donc, on va chercher l'illimité.
D'où l'accumulation du papier toilette, par exemple.
Mais aussi, absolument.
Oui, on n'est pas en déco, le papier toilette, Mélanie. Et c'est juste justement de la déco ou ça apporte quelque chose sur le plan psychologique?
Eh bien, justement, voilà, d'un point de vue psychologique, cette tendance n'est pas dénuée de sens. En fait, dans un ouvrage intitulé « Les quatre temps de la Renaissance », le professeur Michel
qui était notre
invité
il y a peu de temps. Il vient souvent dans l'émission, on le salue, bien
sûr. Voilà, et qui porte très bien son nom puisqu'il nous explique l'importance des objets dans notre
bonheur. Alors en fait, selon lui, la pandémie a généré du stress post-traumatique qui peut être surmonté, entre autres, grâce à ce qui nous entoure, notamment les objets. Donc un jouet d'enfance, par exemple, sera vecteur de nostalgie heureuse et même pourra nous aider à rester optimistes. Nos objets racontent tous quelque chose. Il y a d'ailleurs un article intéressant à ce sujet dans Vanity Fair, écrit par Pierre Léonforte, qui s'amuse à dire que les collectionneurs sont sans doute ceux qui s'en sont le mieux sortis pendant cette crise. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc, vous, que vous collectionnez, les mugs, les santons?
Moi, quand j'étais petite, je collectionnais les tickets de métro usagés.
Non, moi, par contre, je suis pas du tout collectionneuse. Alors, vraiment, au contraire, j'ai la folie de jeter dans des sacs poubelles tout. Je collectionne
c'est
rien.
Drôle. Non, bah, en tout cas, voilà, y a, Sacha Guitry, qui était lui un grand collectionneur d'objets d'art et de manuscrits originaux. Il avait classé les collectionneurs en deux catégories, les collectionneurs placards, les introvertis et méfiants qui préfèrent garder leur collection pour eux seuls, et les collectionneurs vitrines, un peu ceux du
Vous êtes dans quelle team, Julia, vitrine ou placard?
Tout apparemment.
Non, quand j'étais petite, j'étais très introvertie avec mes petits tickets de métro. Maintenant, je suis comme vous, Mélanie, je jette tout, donc je suis très extravertie dans le sac poubelle.
Alors pour conclure, le clutter core, quand on creuse le sujet, on comprend que c'est pas simplement vivre dans un bazar sans nom en faisant régner l'anarchie. Non, ici, il s'agit de bien penser son intérieur et de choisir méticuleusement les objets qui nous entourent, mais aussi de trouver une esthétique propre à tout ça qui nous permet de nous sentir bien chez nous. En fait, l'idée, et c'est ça l'essentiel, je crois, c'est que vous soyez maniaque ou bordélique, comme Julia ou Mélanie, et ben, le but, c'est de sortir des injonctions et de vivre comme vous l'entendez, surtout chez vous. Alors, le mot d'ordre, c'est osez tout et soyez libre.
Ah bah oui, bah c'est très bien. On va finir cette émission sur ce mot d'ordre qui est magnifique. Merci Elsa pour cette découverte étonnante, comme toujours avec vous. Merci pour toutes ces explications sur cette pagaille qui fait du bien, mais je crois que je vais quand même rester plutôt dans l'équipe Marie Kondo, ne m'en voulez pas. Merci à tous les trois, on vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. On sera de retour, bien sûr, lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quel sera le programme?
Alors lundi, Julia, dans Bien fait pour vous, dans la partie vie quotidienne de l'émission, on va faire marcher nos méninges pour pas un rond. On va se poser cette question, peut-on se cultiver sans se ruiner? On va apprendre pas mal de choses et vous verrez, ce sera gratis en plus. Alors rendez-vous lundi.
Et bien d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques si vous en avez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.